Chapitre 24. La galerie des cartes. Aucun de ces deux points n'invalide les choses que je vous ai écrites ici. La galerie des cartes du roi associait esthétique et pratique. Le coûteux édifice de pierre spiricantée, coiffé d'un dôme, possédait des parois lisses qui se fondaient naturellement dans le sol rocheux. Il avait la forme allongée d'une miche de pain taïlène et possédait de grandes lucarnes au plafond, qui permettaient au soleil d'éclairer les jolies formations de schiste écorce. Dalinar passa devant l'une d'entre elles, dont les roses, les verts et les bleus éclatants poussaient selon un motif noueux à hauteur de ses épaules. Ces plantes coriaces ne possédaient pas de véritables tiges ni de feuilles, rien que des vrilles ondulantes évoquant des cheveux colorés. Ce détail excepté, le schiste écorce rappelait davantage la pierre que la végétation. Et cependant, les érudits affirmaient que ce devait être une plante, compte tenu de la façon dont il poussait et tendait vers la lumière. Les hommes aussi le faisaient, songea-t-il, à une époque. Le haut prince Rohion se tenait devant l'une de ses cartes, main jointe derrière son dos, ses nombreux serviteurs obstruant l'autre côté de la galerie. Rohion était un homme de haute taille à la peau claire et à la barbe sombre et bien taillée. Ses cheveux commençaient à se clairsemer. Comme la plupart des autres, il portait une courte veste ouverte à l'avant, qui dévoilait la chemise qu'il portait en dessous. Son tissu rouge dépassait du col de la veste. « Quelle négligence !» songea Dalinar, bien que ce soit très à la mode. Il regrettait simplement que la mode actuelle soit elle aussi, eh bien, négligente.
« Clarissime Dalinar !» le salua Rohion. « J'ai du mal à cerner la finalité de cet entretien. »«
Accompagnez-moi, Clarissime Rohion !» dit Dalinar avec un signe de tête vers le côté. L'autre homme soupira, mais se joignit à lui et emprunta le chemin qui passait entre les bouquets de plantes et le mur de cartes. Les serviteurs de Rohion le suivirent. Parmi eux se trouvaient un porte-coupe et un porte-écu. Chaque carte était éclairée par des diamants, et son cadre était fait d'acier astiqué, brillant comme un miroir. Les cartes étaient tracées à l'encre, en détail, sur des feuilles de parchemin d'une seule pièce, d'une taille inhabituelle. Un tel parchemin ne pouvait qu'avoir été spiricanté. Près du milieu de la pièce, ils atteignirent la prime carte, une énorme carte détaillée accrochée au mur. Elle montrait l'intégralité des plaines brisées qui avaient été explorées. Les ponts permanents étaient représentés en rouge et les plateaux proches du côté Aleti étaient marqués par des paires de glyphes indiquant quel haut prince les contrôlait. La section est de la carte se faisait moins détaillée jusqu'à ce que les lignes disparaissent. Au milieu se trouvait la zone contestée, la section des plateaux où les démons des gouffres venaient le plus souvent faire leur chrysalide. Peu s'aventuraient du côté le plus proche, où se trouvaient les ponts permanents. S'ils venaient, c'était pour chasser, pas pour devenir chrysalide. Il était toujours important de contrôler les plateaux proches, car un haut prince, selon l'accord, ne pouvait traverser un plateau appartenant à l'un des autres à moins d'en avoir la permission. Ce qui déterminait qui possédait les meilleurs accès au plateau du centre et aussi qui devait entretenir les postes de garde et les ponts permanents sur ce plateau. Ces plateaux étaient vendus et achetés parmi les hauts princes. Une deuxième feuille de parchemin sur le côté de la prime carte détaillait la liste de tous les hauts princes et du nombre de cœurs de gemmes qu'ils avaient remportés. C'était là une démarche typiquement Aleti, nourrir la motivation en indiquant très clairement qui gagnait et qui traînassait. Le regard de Rohion se dirigea aussitôt vers son propre nom sur la liste. De tous les hauts princes, c'était Rohion qui avait remporté le moins de cœurs de gemmes. Dalinar leva la main vers la prime carte et frôla le parchemin. Les plateaux du milieu étaient nommés ou numérotés par souci de référence. Le plus éminent d'entre eux était un large plateau qui se dressait, comme par défi, près du côté Parchendi. La tour, l'appelait-on. Un plateau incroyablement massif et à la forme étrange que les démons des gouffres aimaient particulièrement utiliser comme emplacement où devenir chrysalide. Sa vue le fit réfléchir. La taille d'un plateau contesté déterminait le nombre de soldats que l'on pouvait y poster. Les Parchendi amenaient généralement une armée nombreuse à la tour, et ils y avaient déjà repoussé les attaques Aléti à 27 reprises. Aucun Aléti n'y avait jamais gagné d'escarmouche. Dalinar lui-même y avait été repoussé 2 fois. Il était tout simplement trop proche des Parchendi. Il pouvait toujours y arriver les premiers et se mettre en rang, utilisant la pente pour leur donner une excellente position surélevée. « Mais si nous arrivions à les y acculer, se dit-il, avec une armée assez nombreuse de notre côté. » Ça pouvait nécessiter de piéger et de tuer un nombre considérable de soldats Parchendi, peut-être assez pour amoindrir leur capacité à faire la guerre dans les plaines. C'était quelque chose qu'il fallait méditer, mais avant que ça puisse se produire, Dalinar aurait besoin d'alliances. Il fit courir ses doigts vers l'ouest. Le haut prince Sadeas a beaucoup progressé ces derniers temps. Dalinar tapota l'emplacement du camp de guerre de Sadeas. Il a acheté des plateaux aux autres hauts princes, afin qu'il lui soit de plus en plus facile d'être le premier à atteindre les champs de bataille. « Oui, » répondit Rohion, songeur. « Pas besoin de voir une carte pour le savoir, Dalinar. » « Regardez l'étendue de la zone, » poursuivit Dalinar. « 6 années de combat incessants, et personne n'a même vu le centre des plaines brisées. » Le but n'a jamais été là. Nous les piégeons à l'intérieur, nous les assiégeons, nous les affamons, et nous les obligeons à venir à nous. N'était-ce pas là votre plan? Oui, mais je n'ai jamais imaginé que ça se prolongerait si longtemps. Je commençais à me dire qu'il était peut-être temps de changer de tactique. Pourquoi? Celle-ci fonctionne. Il ne s'écoule pas une semaine sans quelque conflit avec les Parchendi. Cela dit, puis-je vous faire remarquer que vous-même n'avez guère été un modèle d'inspiration au combat ces derniers temps? Il désigna le nom de Dalinar sur la feuille plus petite. Près de son nom figurait un grand nombre de traits indiquant le nombre de cœurs de gemmes remportés, mais très peu étaient récents. Certains affirment que l'épine noire a perdu son piquant, déclara Rohion. Il prenait soin de ne pas insulter ouvertement Dalinar, mais il allait plus loin qu'il ne l'aurait fait à une époque. La nouvelle du comportement de Dalinar lorsqu'il était coincé dans la baraque s'était répandue. Dalinar s'obligea à rester calme. « Rohion, nous ne pouvons pas continuer à traiter cette guerre comme un jeu. » « Toutes les guerres sont des jeux. Le meilleur jeu qui soit, où les pièces perdues sont des vies véritables, où les trophées valent une véritable fortune. » C'est là l'existence à laquelle aspirent les hommes, se battre, tuer, gagner. Il citait l'Ensoleilleur, le dernier roi Aléti à avoir uni les hauts princes. Gavilar avait autrefois vénéré son nom. Peut-être, dit Dalinar. Mais à quoi bon? Nous combattons pour obtenir des lames d'éclat, puis nous utilisons ces lames pour nous battre afin d'obtenir d'autres lames. C'est un cercle sans fin. Nous tournons en rond, encore et encore, pour devenir plus à même de tourner en rond. Nous nous battons pour nous préparer à reconquérir le paradis et à reprendre ce qui nous appartient. Les hommes peuvent s'entraîner sans aller à la guerre et se battre sans que ce soit dépourvu de sens. Les choses n'ont pas toujours été ainsi. Il fut un temps où nos guerres signifiaient quelque chose. Rohion haussa un sourcil. « Vous allez presque me faire croire aux rumeurs, Dalinar. Elles affirment que vous avez perdu votre goût du combat, que vous n'avez plus la volonté de vous battre. » Il le mesura de nouveau du regard. « Certains affirment qu'il est temps que vous abdiquiez en faveur de votre fils. » « Les rumeurs se trompent, » aboya Dalinar. « C'est... »« Elles se trompent, » dit fermement Dalinar. Si elles affirment que je suis devenu indifférent. » Il posa de nouveau les doigts sur la surface de la carte et les fit courir sur le parchemin lisse. « Je m'inquiète, Rohion, profondément, pour ce peuple, pour mon neveu, pour l'avenir de cette guerre, et c'est pourquoi je suggère que nous adoptions une tactique plus agressive à compter de maintenant. Eh bien, c'est une bonne chose, j'imagine.
Unissez-les.
Je veux que vous tentiez une attaque de plateau commune avec moi, déclara Dalinar.
Quoi ?
Je veux que nous coordonnions nos efforts, vous et moi, et que nous attaquions en même temps, en collaboration.
Pourquoi ferions-nous une chose pareille ?
Nous pourrions augmenter nos chances de remporter des cœurs de gemmes.
Si une plus grande armée augmentait mes chances de gagner, objecta Royon, alors j'amènerais davantage de soldats. Les plateaux sont trop petits pour accueillir de grandes armées, et la mobilité est plus importante que les chiffres.
C'était un argument valable. Quantité ne signifiait pas forcément qualité. L'exiguïté des lieux ainsi que la marche forcée transformaient considérablement la guerre. Le nombre exact de soldats utilisés dépendait de la taille du plateau et de la philosophie martiale personnelle du Haut-Prince.
Travailler ensemble ne signifierait pas simplement augmenter le nombre de soldats, répondit Dalinar. L'armée de chaque Haut-Prince possède différents points forts. Je suis connu pour mon infanterie lourde. Vous avez les meilleurs archers. Les ponts de Sadeas sont les plus rapides. En nous associant, nous pourrions tenter de nouvelles tactiques. Nous consacrons trop d'efforts à atteindre le plateau dans la hâte. Si nous n'étions pas dans une telle précipitation, à rivaliser les uns avec les autres, nous pourrions peut-être cerner le plateau. Nous pourrions essayer de laisser les Parchendi arriver les premiers, puis les attaquer selon nos conditions, plutôt que selon les leurs.
Royon hésita. Dalinar avait passé des jours à délibérer avec ses généraux au sujet de la possibilité d'une attaque commune. Ce qui semblait présenter des avantages très nets, mais il n'en aurait la certitude que lorsque quelqu'un aurait essayé avec lui.
Royon semblait réellement réfléchir à la question.
Qui obtiendrait le cœur de gemme ?
Nous partagerions équitablement la somme, répondit Dalinar.
Et si nous gagnons une lame d'éclat ?
L'homme qui la prendrait l'obtiendrait, de toute évidence.
Et ce serait certainement vous, dit Royon, songeur, puisque votre fils et vous possédez déjà des éclats.
C'était le plus grand problème lié aux lames et aux cuirasses d'éclat. Il était hautement improbable d'en gagner une à moins de posséder déjà soi-même des éclats. En réalité, ne posséder que l'un ou l'autre ne suffisait souvent pas. Sadeas avait affronté des porte-éclats Parchendi sur le champ de bataille, et il avait toujours été contraint de se retirer pour ne pas se faire tuer lui-même.
Je suis persuadé que nous pourrions trouver un arrangement plus équitable, répondit enfin Dalinar.
S'il gagnait des éclats, il avait espéré être en mesure de les donner à Renarin.
Je n'en doute pas, répondit Royon, sceptique.
Dalinar inspira vivement. Il fallait faire preuve d'une plus grande hardiesse.
Et si je vous les offrais ?
Je vous demande pardon ?
Nous tentons une attaque commune. Si je gagne une lame ou une cuirasse d'éclat, vous obtenez le premier ensemble, mais je garde le deuxième.
Royon plissa les yeux. Vous feriez ça ?
Sur mon honneur, Royon.
Eh bien, personne n'en douterait. Mais pouvez-vous reprocher à un homme de se méfier ?
À quel sujet ?
Je suis un haut prince, Dalinar, dit Royon. Ma principauté est la plus petite, c'est vrai, mais je suis mon propre souverain. Je refuse de me voir subordonné à quelqu'un de plus grand.
Vous êtes déjà devenu partie intégrante de quelque chose de plus grand, songea Dalinar avec frustration. Ça s'est produit dès l'instant où vous avez juré allégeance à Gavilar. Royon et les autres refusaient de tenir leurs promesses.
Notre royaume peut devenir tellement plus que ce qu'il est, Royon.
Peut-être, mais peut-être aussi que je suis satisfait de ce que j'ai. Quoi qu'il en soit, vous me faites une proposition intéressante, je vais devoir y réfléchir.
Très bien, répondit Dalinar. Mais son instinct lui dictait que Royon allait décliner l'offre. Cet homme était trop méfiant. Les hauts princes avaient le plus grand mal à se faire assez confiance entre eux pour collaborer quand il n'y avait pas de lame d'éclat ni de gemme en jeu.
« Est-ce que je vous verrai au festin ce soir ?»
demanda Royon. « Pourquoi ne serait-ce pas le cas ?» demanda Dalinar avec un soupir.
« Eh bien, les Fulgiciens affirment qu'il pourrait y avoir une tempête majeure, voyez-vous »
« Je serai là, » répondit Dalinar d'une voix neutre.
« Oui, bien entendu, »
dit Royon en gloussant de rire.
« Il n'y a aucune raison pour que vous n'y soyez pas. »
Il sourit à Dalinar et se retira, suivi de ses serviteurs. Dalinar soupira et se retourna pour étudier la prime carte, réfléchissant à cet entretien et à ce qu'il signifiait. Il resta là un long moment, baissant les yeux vers les plaines, comme s'il était un dieu les contemplant de haut. Les plateaux évoquaient des îles proches, ou peut-être des pièces irrégulières intégrées à un vitrail massif. Il eut le sentiment, et ce n'était pas la première fois, qu'il aurait dû être en mesure de distinguer un motif dans ces plateaux. S'il en voyait davantage, peut-être. Qu'est-ce que ça signifierait si ces gouffres étaient bel et bien régis par un ordre? Tous les autres se souciaient tellement de paraître forts, de faire leurs preuves. Était-il réellement le seul à en voir la frivolité? La force pour la force, à quoi servait-elle si on ne l'employait à rien? Aletkar était un phare autrefois, songea-t-il. C'est ce qu'affirme le livre de Gavilar, ce que me montrent les visions. Noadon était roi d'Aletkar il y a si longtemps, en ces temps d'avant le départ des héros. Dalinar avait quasiment le sentiment de le percevoir, le secret, celui qui enthousiasmait tellement Gavilar les mois précédant sa mort. Si Dalinar pouvait tendre juste un peu plus loin, il le distinguerait. Il verrait le schéma qui régissait la vie des hommes, et il saurait, enfin. Mais c'était ce qu'il avait fait ces 6 dernières années, tâtonner, tendre juste un peu plus loin. Plus il tendait la main, plus ses réponses semblaient lointaines. Adoline pénétra dans la galerie des cartes. Son père s'y trouvait toujours, seul. Deux membres de la garde Cobalt le surveillaient de loin. Royon n'était nulle part en vue. Adoline s'approcha lentement. Son père avait cette expression, cet air absent qu'il affichait si souvent ces temps-ci. Même lorsqu'il n'avait pas l'une de ses crises, il n'était pas entièrement là, pas comme autrefois. « Père ?» demanda Adeline en s'avançant vers lui. « Bonjour, Adeline. »« Comment s'est passé l'entretien avec Royon ?» demanda Adeline d'une voix qu'il espérait enjouée. « Décevant. Je me révèle bien plus mauvais pour la diplomatie que je ne l'étais autrefois pour la guerre. Il n'y a aucun profit à tirer de la paix. C'est ce que tout le monde affirme. Mais nous avons été en paix autrefois, et tout le monde semblait bien s'emporter. » Mieux même. Il n'y a pas eu de paix depuis la cité Sérénide, répondit aussitôt Adeline. Le conflit est la nature de la vie humaine sur Rochard. C'était une citation des arguments. Dalinar se tourna vers Adeline, l'air amusé. Tu me cites les textes sacrés, toi? Adeline haussa les épaules et se sentit soudain très bête. « Eh bien, voyez-vous, Malacha est très religieuse, et tout à l'heure je me suis retrouvé à écouter... »« Un instant, » dit Dalinar. « Malacha? Qui est-ce ?»«
La fille du clarissime Sévex. »«
Et cette autre fille, Janala. » Avec une grimace, Adeline se remémora cette promenade désastreuse qu'ils avaient entreprise l'autre jour.
« Il faudrait encore plusieurs somptueux cadeaux pour y remédier. »
Elle semblait bien moins intéressée par lui à présent qu'il n'était plus avec quelqu'un. « La situation est précaire. Malacha semble un meilleur parti. » Il changea rapidement de sujet. « J'imagine que Royon n'est pas prêt d'entreprendre une attaque de plateau commune avec nous. » Dalinar secoua la tête. « Il a trop peur que j'essaie de le manipuler pour le mettre dans une position où je pourrais m'emparer de ses terres. »
C'était peut-être une erreur d'approcher le plus faible des hauts princes en premier. Il préfère se tapir, pour essayer de survivre à ce qui lui tombe dessus, s'accrocher à ce qu'il a, plutôt que de tenter une manœuvre risquée afin d'obtenir quelque chose de plus grand. Dalina regarda fixement la carte, l'air de nouveau lointain. Gavilar rêvait d'unifier Aletkar. À une époque, j'ai cru qu'il y était parvenu malgré ce qu'il affirmait. Plus je travaille avec ces hommes, plus je comprends que Gavilar avait raison. Nous avons échoué. Nous avons vaincu ces hommes, mais nous ne les avons jamais unis. Donc, vous comptez toujours approcher les autres ? En effet, il me suffit qu'un seul d'entre eux accepte pour commencer. Qui penses-tu que nous devrions aller voir ensuite ?
Je ne sais pas trop, répondit Adeline.
Mais pour l'heure, je crois qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir. Sadeas a envoyé un messager pour nous demander la permission d'entrer dans notre camp de guerre. Il veut interroger les palefreniers qui se sont occupés du cheval de Sa Majesté lors de la chasse.
Son nouveau poste lui donne le droit de faire ce genre de requête.
Père, dit Adeline en s'approchant d'un pas et en parlant doucement, je crois qu'il va tenter quelque chose contre nous.
Dalinar le regarda.
Je sais que vous lui faites confiance, s'empressa d'ajouter Adeline, et je comprends vos raisons à présent, mais écoutez-moi. Cette manœuvre le place en position idéale pour nous affaiblir. Le roi est devenu assez paranoïaque pour se méfier même de vous et de moi. Je sais que vous vous en êtes aperçu. Tout ce que Sadeas aurait à faire, ce serait de trouver une preuve imaginaire nous reliant à une tentative d'assassinat contre le roi. Et il parviendrait à retourner Elokar contre nous.
Nous allons peut-être devoir courir ce risque.
Adeline fronça les sourcils. Mais...
J'ai confiance en Sadeas, mon fils. Cependant, même dans le cas contraire, nous ne pourrions pas lui interdire l'entrée ni entraver son enquête. Non seulement nous paraîtrions coupables aux yeux du roi, mais nous rejetterions également son autorité. Il secoua la tête. Si je veux que les autres hauts princes m'acceptent un jour comme leur chef de guerre, je dois me montrer disposé à accepter l'autorité de Sadeas en tant que haut prince de l'information. Je ne peux pas me reposer sur les anciennes traditions pour mon autorité, mais refuser le même droit à Sadeas.
Sans doute, admit Adeline.
Mais nous pourrions tout de même nous préparer.
Ne me dites pas que vous n'êtes même pas un peu inquiet.
Dalinar hésita.
Peut-être. Cette manœuvre de Sadeas est agressive. Mais on m'a dicté comment me comporter.
Faites confiance à Sadeas. Soyez fort. Agissez avec honneur. Et l'honneur vous aidera.
C'est le conseil que j'ai reçu.
De quelle source ?
Dalinar le regarda et Adeline comprit l'évidence.
Donc nous parions maintenant l'avenir de notre maison sur ces visions, dit Adeline d'une voix neutre.
Je ne dirais pas ça, répliqua Dalinar. Si Sadeas faisait bel et bien une tentative contre nous, je ne le laisserais pas nous renverser sans rien faire. Mais je ne compte pas non plus agir contre lui le premier.
À cause de ce que vous avez vu, dit Adeline avec une frustration croissante.
Père, vous disiez que vous écouteriez ce que j'avais à vous dire au sujet de ces visions.
Eh bien, écoutez-moi maintenant. L'endroit est mal choisi.
Vous avez toujours une excuse, répondit Adeline. Voilà déjà 5 fois que je tente de vous en parler et vous me repoussez toujours.
Peut-être parce que je sais ce que tu vas dire. Répondit Dalinar, et je sais que ça n'aidera en rien.
Ou peut-être parce que vous ne voulez pas qu'on vous pousse à affronter la vérité ?
Ça suffit, Adeline.
Non, pas du tout. On se moque de nous dans chacun des camps de guerre. Notre autorité et notre réputation diminuent chaque jour, et c'est vous qui refusez d'y faire quoi que ce soit de concret ?
Adeline, je refuse d'entendre ces mots venant de mon fils.
Mais vous l'acceptez de la part de tous les autres. Pourquoi ça, père ? Quand d'autres disent ces choses-là sur nous, vous les laissez faire.
mais quand Rénarine ou moi avançons d'un pas infime vers ce que vous considérez comme inapproprié, nous nous faisons aussitôt réprimander. Tous les autres peuvent mentir, mais je ne peux pas dire la vérité. Vos fils représentent-ils si peu à vos yeux ?
Dalinar se figea, avec l'air d'avoir reçu une gifle.
Vous n'allez pas bien, père, poursuivit Adeline.
Une partie de lui savait bien qu'il était allé trop loin, qu'il parlait trop fort, mais tout lui échappa néanmoins en un flot de paroles.
Il faut que nous arrêtions de tourner autour du pot sur la pointe des pieds. C'est vous qui devez arrêter d'inventer des explications de plus en plus irrationnelles pour justifier vos écarts. Je sais que c'est difficile à expliquer, mais parfois les gens vieillissent. Parfois, l'esprit cesse de fonctionner correctement. J'ignore ce qui va de travers. Peut-être votre culpabilité pour la mort de Gavilar. Ce livre, les codes, les visions, ce sont peut-être des tentatives pour trouver une échappatoire, trouver la rédemption ou quelque chose d'autre. Ce que vous voyez n'est pas réel. Votre vie actuelle est une manière de faire comme si ce qui se produit n'existait pas. Mais je laisserai la damnation m'emporter avant de vous laisser entraîner avec vous la maison tout entière sans exprimer ce que j'en pense.
Il avait quasiment crié ces derniers mots. Ils résonnèrent dans la grande pièce, et Adeline s'aperçut qu'il tremblait. Il n'avait jamais, de toute sa vie, parlé ainsi à son père.
« Tu crois que je ne me suis pas interrogé sur ces choses-là »
répondit Dalinar, la voix glaciale et le regard dur.
« J'ai réfléchi une dizaine de fois à chacun des points que tu viens de soulever. »
« Dans ce cas, vous devriez y réfléchir encore plusieurs fois. »
« Je dois me faire confiance. Les visions cherchent à me montrer quelque chose d'important. Je ne peux ni prouver ni expliquer comment je le sais, mais c'est la vérité. »«
Évidemment que c'est ce que vous pensez, » répondit Adeline, exaspérée. « Vous ne comprenez pas. C'est exactement ce que vous devez ressentir. »
Les hommes sont très doués pour ne voir que ce qu'ils veulent. Regardez le roi. Il voit un tueur dans chaque ombre et une sangle usée devient une machination complexe pour lui ôter la vie.
Là encore, Dalinar garda le silence.
Parfois, père, les réponses les plus simples sont les bonnes, poursuivit Adeline. La sangle du roi s'est simplement usée. Et vous, vous voyez des choses qui ne sont pas là. Je suis désolé.
Leurs regards se croisèrent et se soutinrent. Adeline ne baissa pas le sien. Il refusa de le baisser. Dalinar se détourna enfin.
« Laisse-moi, s'il te plaît. »«
Très bien, d'accord. Mais je veux que vous y réfléchissiez. Je veux que vous...
Adeline, va-t'en. »
Adeline serra les dents, mais se détourna et s'éloigna d'un pas raide. Il fallait que ce soit dit, se répéta-t-il en quittant la galerie. Pour autant, il ne lui était pas moins désagréable de devoir être celui qui le formulait tout haut.